Les Nouveaux Sauvages, une émission présentée par Marie Laloum.
I started from the question of how come some people enjoy other people's suffering so that it makes violence enjoyable, so that people find it heroic to punish people that they judge as bad. And then how come other people in the same society are just the opposite? They get their joy not in believing that there's bad people that need to be punished, but they get their joy in contributing to people's well-being. So I then saw that there was quite a different language and quite a different consciousness on the part of people who behaved in the violent way as opposed to the compassionate way. And I decided to try to clarify that. What is the nature of communication that helps us to connect in a way in which we enjoy contributing to each other's well-being?
Dans cette introduction à la communication non violente, Marshall Rosenberg s'est posé la question suivante. Comment se fait-il que des personnes prennent plaisir à la souffrance d'autres personnes ? Rendant la violence et la punition agréables, jugeant les personnes comme mauvaises ? Et comment se fait-il que d'autres personnes dans la même société sont à l'opposé ? Elles tirent leur plaisir non dans la croyance qu'il y a de mauvaises personnes qui doivent être punies, mais elles tirent leur joie de contribuer au bien-être des personnes. Marshall Rosenberg expose ainsi que le langage est très différent de la part des personnes qui se comportent d'une manière violente, contrairement à une manière compatissante. Il décide ainsi de clarifier cette question. Quelle est la nature de cette communication qui aide à nous connecter d'une manière par laquelle on prend plaisir à contribuer au bien-être de l'un et de l'autre ? Et en quoi ce processus de communication est-il différent de celui des personnes qui contribuent à la violence des autres ? Pour répondre à ces questions, je me suis alors inscrite à une formation de communication non violente, afin de comprendre pourquoi certaines relations fonctionnent et d'autres ne fonctionnent pas. J'ai ainsi interrogé le formateur et les participants de la formation.
Bonjour, je m'appelle Martin Staud, et en deux, trois mots, donc, je suis formateur en communication non violente, et à la fois thérapeute en sens individuel, et je propose des médiations aussi quand il y a des conflits, tensions entre des personnes.
Qu'est-ce qui t'a amené à être formateur en communication non violente et qu'est-ce qui t'intéresse dans la communication non violente ?
Alors, ce qui m'a amené, c'était il y a à peu près 12 ans, j'ai découvert la CNV grâce à mon ex-directeur de thèse qui m'a dit « Ah Martin, écoute, là il y a un truc CNV ». Et comme j'avais confiance en lui, je me disais « Ah, qu'est-ce que c'est ?» Et je suis allé sur internet regarder quelques vidéos de Marshall Rosenberg, la personne qui a fondé la CNV. Et tout de suite, j'ai vu « Ah waouh, ce qu'il propose, c'est tellement contre-intuitif, contre-habituel, pas de punition, pas de récompense. » Et ça m'a vraiment intrigué. Et très vite, j'ai vu les bienfaits au niveau pratique, aussi relationnel. Et j'ai vu « Ah oui, si je fais comme ça, pas de jugement, je transforme en besoin. » Donc ça a vraiment amélioré mes relations. Et c'est ça qui m'a donné l'envie de partager à mon tour. Parce que c'est devenu une passion de quelque part, de semer des graines, d'apporter peut-être une nouvelle manière d'être avec soi, avec les autres. Pour d'autres personnes qui sont intéressées.
Alors, quand tu parles de Marshall Rosenberg, c'est un peu le fondateur de la CNV. Quelle est la base, en fait, de la CNV et qu'est-ce qu'il a voulu construire autour de la CNV, de la communication consciente, de la communication habituelle ? Qu'est-ce qu'il a voulu vraiment partager à l'autre ?
Donc, Marshall Rosenberg, il a grandi aux États-Unis dans les années 30 et 40. Au moment des violences raciales à Detroit. Et en fait, il a vu que, déjà quand il était enfant, adolescent, mais qu'est-ce qui fait que certaines personnes deviennent violentes, physiquement ou verbalement ? Parce que quand on parle de communication non violente, ce n'est pas juste la violence physique, c'est la violence dans le cœur, par les jugements verbaux, émotionnels. Il se demandait qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui deviennent violentes et d'autres, pas du tout. Parce qu'il a observé son oncle qui prenait soin de sa grand-mère ou d'une tante qui était malade, toujours avec un grand sourire. Il se demandait, mais qu'est-ce qui fait que dans les gens, parfois on a une tendance à la violence et parfois à la compassion. Et donc avec ce questionnement, il est devenu psychologue pour voir, mais qu'est-ce qui fait que... Et donc il a fait des études classiques de psychologie et très vite il a vu qu'il y a des limites quand même. Parce que si on n'est que dans la guérison, dans le traitement, on oublie le côté prévention et aussi amener ça au grand public. Donc il a mis au point en fait une méthode assez simple, il n'a rien inventé de nouveau. Tout ce qu'il a trouvé, ça existe déjà dans la psychologie, dans les courants, les sagesses de vie, dans plein de domaines. Mais il a réussi, à mon avis, de mettre au point quelque chose qui est très simple à appliquer. Au niveau de la communication, observation, sentiment, besoin, demande, et quelle est mon intention quand je vais dans la relation. Et donc c'est ça le but vraiment tel que je le perçois de la CNV, de la communication non violente, c'est comment est-ce que je peux créer un lien de qualité où il y a une envie mais naturelle de contribuer au bien-être de l'autre. Sans qu'il y ait des exigences, sans qu'il y ait des jugements contre l'autre, des images d'ennemis, etc. Et ça parle au fond, pour moi, vraiment de comment on peut favoriser la coopération, la compassion, le mieux-être ensemble, relationnel, à petite échelle, à deux, à trois, mais aussi dans la société.
Donc ça veut dire que la communication consciente, ça part de l'observation, du sentiment, donc de l'émotion, du besoin et d'une demande. Quelle est la communication habituelle ?
Ah bah la communication habituelle, je connais très bien et j'imagine que tu connais très bien aussi, on connaît tous, hein, c'est communiquer d'une manière qui freine la bienveillance relationnelle et la collaboration. C'est parler par des jugements, mais qu'est-ce que tu es égoïste, qu'est-ce que c'est pas respectueux, c'est pas professionnel ce que tu fais, t'es pas fiable, etc. Donc les jugements, ça c'est un grand frein. Après les exigences, hein, exiger de l'autre qu'il fasse ou qu'il dise quelque chose que je veux, mais il faut que tu, tous les il faut que tu dois, ou si c'est dirigé à moi, il faut que je fasse ceci ou cela, je sois, t'as pas le choix, etc. Donc c'est aussi une question de, quelque part, d'un déni de responsabilité, je nie que j'ai le choix, en disant que je suis obligé de faire, j'ai pas le choix, il faut que je, ou j'ai pas le temps, je peux pas. Voilà, toutes ces manières qui peuvent freiner notre communication relationnelle. Et qui, c'est ça le côté habituel, où nous sommes en mode autopilote, on fait comme d'hab.
Donc on fait comme d'hab, on juge, donc c'est des freins à la communication, à la bienveillance dans la relation. Il y a aussi la critique envers l'autre. On a tendance aussi à reporter la responsabilité envers l'autre et du coup à construire un jugement vis-à-vis soit de soi-même, soit de l'autre. Voilà, comment sortir finalement de ces jugements ? Comment sortir ? Alors, effectivement, on en a parlé un petit peu avec l'observation, etc. Mais il y a aussi un élément assez important au cœur de la communication non violente, c'est l'auto-empathie et puis l'empathie. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui, alors comment sortir de nos automatismes ? Bah, pour moi, le premier pas, c'est d'en prendre conscience, avec bienveillance envers soi-même. Juste voir que ah, là, je suis en train de juger, je suis en train d'exiger. C'est le premier pas de prendre conscience de mes automatismes. Parce que quand je prends conscience, ben, j'ai le choix. Je reprends le choix où avant, je n'avais pas le choix. Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans la communication non violente, c'est de me rappeler que ben, chaque jugement, c'est juste l'expression tragique d'un besoin. Et pour moi, c'est vraiment une clé qui me permet de sortir du jugement et de revenir à quelque chose qui est essentiel pour moi, mes propres besoins. Si par exemple, je te dis « Non, mais qu'est-ce que tu es égoïste ? C'est incroyable !» Là, j'ai un jugement sur toi, mais au fond, ça part de mon besoin de soutien ou peut-être d'entraide que j'exprime de cette manière un peu tragique.
À partir du moment où, du coup, on prend conscience qu'on est dans le jugement, tout de suite, voilà, ça retraduit un besoin réel. C'est finalement, voilà, à partir de ce besoin, comment avoir conscience de nos propres besoins et décrypter un petit peu nos émotions. Ça veut dire qu'il y a un travail sur soi-même, ça veut dire qu'il y a une vraie écoute de soi-même. Comment aller dans cette prise de conscience, justement ?
Oui, pour moi, la CNV, ça a une double vocation. À la fois, c'est une pratique de mieux se connaître soi-même et à la fois aussi d'apporter quelque part un changement sociétal. Sur le premier volet de comment est-ce que je peux mieux me connaître pour que ce soit au service de la relation, effectivement, ben, je prends conscience que ben, quand il y a quelque chose qui se passe, quelqu'un me dit un jugement, Quel est le sentiment qui touchait? Est-ce que ça crée une colère? Est-ce que c'est une tristesse, une peur? Est-ce que ça crée la joie? Et à partir de ce sentiment, le sentiment, c'est quelque part un messager, un panneau indicateur qui me dit quelque chose qui n'est pas satisfait en moi ou qui satisfait. Donc si je dis, comme tout à l'heure, tu es égoïste, ça part de mon besoin de soutien, d'entraide, par exemple. Et du coup, quand je vois que ce besoin n'est pas satisfait, ça génère une colère, une tristesse, une déception. Donc c'est vraiment ce jeu entre prendre conscience de mes sentiments qui me guide vers mes besoins profonds. Les besoins profonds, ça peut être la liberté, ça peut être le sens, ça peut être l'amour, ça peut être la coopération, ça peut être la sécurité, etc.
Ça veut dire qu'on est, avec la CNV, on est sans arrêt dans cette empathie ou cette expression authentique d'aller comprendre en fait les sentiments de l'autre et les besoins de l'autre.
Oui, c'est les deux. C'est une sorte de double attention. Comment est-ce que moi, qu'est-ce qui se passe en moi et qu'est-ce qui se passe en l'autre? Parce que souvent, on a cette tendance de je m'oublie, je fais juste plaisir à l'autre, je mets l'autre en avant ou le contraire. Donc pour éviter ces deux extrêmes, l'idée c'est vraiment prendre en compte qu'est-ce qui se passe pour l'autre, quels sont ses besoins et quels sont les miens. Si je sais que toi tu as besoin de sécurité et moi j'ai besoin de liberté, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble avec ça pour éviter que moi je prenne uniquement en compte mon propre besoin et en oubliant le tien ou l'inverse. Donc c'est ça que j'appelle coopération, voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que ce soit bon pour toi et bon pour moi à la fois.
Ça suggère aussi que tout le monde soit dans la prise de conscience de ses besoins. Et voilà, il n'y a pas que des besoins primaires, de manger, se nourrir. Comment identifier finalement un besoin?
Comment identifier un besoin? C'est vrai que dans le langage courant, on dit souvent que j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'une voiture. Et l'approche dans la communication non violente, c'est qu'on considère que ça, c'est plutôt des moyens pour satisfaire un besoin. Par exemple, si je me dis « Ah, il me faut une voiture », quelque part, c'est un moyen pour vivre un besoin, une aspiration, par exemple la liberté, ou peut-être la détente, ou peut-être le lien si j'utilise la voiture pour voir un ami ou un collègue. Donc, pour identifier un besoin, c'est pas si facile, je me rends compte. Parce que moi, par exemple, j'ai grandi en Allemagne, mais je pense que c'est pareil en France, j'ai pas été éduqué dans la conscience des besoins. Moi, je connais le jugement, les critiques sur les autres, mais mes besoins, vraiment, j'ai pas appris. Donc c'est un terrain assez nouveau qui demande, quelque part, apprendre quels sont les besoins. Et les besoins, qu'est-ce que c'est? C'est un élan, c'est une aspiration universelle que tous les êtres humains partagent. Parce qu'on a tous quelque part envie de vivre, par exemple, la liberté, la sécurité, l'entraide, le sens. Et donc ça, c'est déjà une question que je peux me poser. Est-ce que c'est universel? Est-ce que c'est universel? Est-ce que c'est aussi un besoin qui n'implique pas une autre personne? Parfois, on dit « j'ai besoin de toi », que ce soit envers un collègue ou dans un couple, « j'ai besoin de toi ». Mais au fond, la relation que je suis en train de vivre, c'est juste un moyen pour un besoin plus profond. Donc peut-être si je dis j'ai besoin de toi, au fond ce que je veux c'est peut-être vivre la complicité ou l'échange ou le soutien ou l'amour. Donc ça c'est une manière pour revenir à ces besoins profonds de me demander est-ce que c'est universel et est-ce que ça n'implique pas une autre personne.
Une fois qu'on a identifié les besoins, il s'agit aussi de faire une demande à l'autre. Quels sont les différents types de demandes à faire à l'autre de manière empathique, de manière sans agressivité, qui exprime autant son émotion et son besoin?
Oui, ça c'est un point important effectivement, parce que l'idée dans la CNV c'est pas juste prendre conscience de mes sentiments, je me sens triste parce que j'ai peut-être besoin d'échange mais on fait aussi une demande vraiment, c'est une action concrète, une proposition que je fais à l'autre ou à moi-même pour prendre soin de mes besoins. Donc une demande, ça peut être une proposition du genre, par exemple, si j'ai besoin de soutien, je peux te demander, Marie, est-ce que ça te va si par exemple on prend là, tu vois, une heure pour faire une petite balade ensemble et je te partage ce que j'ai sur le cœur, ou avec un collègue, si je demande bah, est-ce que ça te va si par exemple demain on fait une réunion à 10h pour qu'on puisse discuter de l'avancement du projet. Et une demande, ce qui est important, c'est qu'elle soit concrète, parce qu'on a souvent tendance à faire des demandes un petit peu floues, du genre est-ce que tu peux être plus attentive, est-ce que tu peux être plus compréhensive, est-ce que tu veux me faire confiance. Donc là, l'autre personne, elle ne sait pas qu'est-ce que je veux que tu fasses. Donc c'est important qu'une demande soit concrète en utilisant par exemple des verbes d'action. Est-ce que tu peux me dire, on peut faire une réunion, dormir, payer, m'envoyer un email, ça c'est des actions concrètes. Mais c'est aussi important, si je fais une demande, qu'elle ne soit pas une exigence. Parce que si j'exige quelque chose, bah, ça touche le besoin de liberté de l'autre personne. Et du coup, je me donne moins de chances de vivre mon besoin. Donc attention à ça, est-ce que je fais le choix d'être en mode exigence envers l'autre ou plutôt en mode demande où je fais juste une proposition et au fond où je suis ouvert à accepter le non de l'autre personne.
Oui, puisque le non touche forcément un besoin de la part de l'autre et c'est trouver consensus quelque part. Du coup, toi en fait, Martin, tu accompagnes en groupe, en collectif et de manière individuelle. Est-ce que tu peux dire un mot justement sur ce que tu vois dans les groupes et comment ils évoluent par rapport à cette méthode de la CNV ?
Alors je me rends compte, juste là maintenant, je suis en formation et je me rends compte que au bout des jours, les gens, ils intègrent de plus en plus, les stagiaires, cette idée de besoin et de vraiment prendre conscience, au fond, qu'est-ce que je veux ? Quel est mon besoin qui est satisfait ou pas ? Et du coup, ça ressort avec beaucoup plus de fluidité, de facilité, de quel est mon besoin et quel est ton besoin aussi ? Et du coup, ça crée une ambiance plus coopérative et avec une ambiance de bah, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et quand j'accompagne les personnes en séance individuelle, en thérapie ou coaching, c'est similaire, c'est apporter plus de bienveillance envers soi-même, parce que je vois beaucoup de gens qui se jugent, oh, je suis trop, je ne suis pas assez, ceci ou cela. Et apporter plus de douceur envers soi-même aussi, pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière ces jugements que je peux avoir envers moi-même. Donc ça, c'est un volet important aussi, d'apporter une lucidité et une douceur, un amour quelque part envers soi. Et pourtant, ça ne veut pas dire je me laisse faire, je suis en mode paillasson. Certaines choses dans la société, je ne suis pas d'accord parce que c'est contre mes besoins, contre mes valeurs. Valeurs d'équité peut-être, valeurs de solidarité, de liberté, d'expression, etc. Donc c'est important aussi de reconnaître que la CNV, c'est aussi un moyen d'action sociale pour dire stop, il y a quelque chose qui ne me convient pas. Et c'est ça ce que j'aime, que c'est à la fois un outil de développement personnel, mais à la fois aussi d'expression politique ou sociétale.
Effectivement, tu en as parlé un petit peu tout le long de cette interview. Voilà, ce besoin aussi peut-être de changement sociétal, de contribuer à la société, d'avoir des relations meilleures les uns avec les autres. Voilà, quel est ton besoin le plus profond en transmettant tout ce que tu sais sur la communication non violente ?
Alors, à part le fait que pour moi, je vis ça comme une passion, je me sens vraiment à ma place de partager ça en groupe et en sens individuel. Et ce que je vois, c'est que bah, les stagiaires qui viennent ici, ils utilisent la CNV et cet esprit de coopération, qui est pour moi qui est la CNV, pour le résumer, aux endroits où ils sont, dans la famille, dans leurs entreprises, dans les institutions où ils travaillent, dans les associations, les collectivités où ils sont. Pour quelque part instaurer une nouvelle dynamique, quelque chose qui sort de nos habitudes, des jugements, des exigences, des nids de responsabilité, de comparer les uns des autres. Et c'est ça quelque part qui me fait plaisir de savoir que bah, chacun à sa façon amène la CNV à l'endroit où il est déjà, pour devenir, sans utiliser des grands mots, mais pour devenir quelque part une petite graine de paix et de coopération. Et parfois, peut-être même ambassadeur de la paix. Et de faire ça de manière consciente ou inconsciente, mais c'est ça où je vois qu'il y a un effet de boule de neige, qu'à partir d'un simple stage ou d'une séance individuelle, il y a quelque chose qui se répand. Après, il y a aussi des initiatives qui sont beaucoup plus institutionnelles. Par exemple, il y a dans la CNV un travail avec les prisonniers, où on va dans les prisons, par exemple, où il s'agit vraiment de violences physiques, comment est-ce qu'on peut amener les gens à prendre conscience de leur propre violence pour instaurer une dynamique plus paisible. Éducation, par exemple, dans les écoles, amener vers les enfants, par exemple, une nouvelle manière d'être en lien avec les, entre eux. Dans l'éducation, la justice restaurative, par exemple, pareil, restaurer le lien entre victimes et les auteurs de crimes, par exemple. Et encore une fois, tout ce qui est au lien, au cœur de la CNV, pour moi, c'est créer une qualité de lien, même dans la différence, même si je ne suis pas d'accord avec la vie ou les actes que une autre personne met en place, mais j'essaie de créer un lien de qualité d'échange. Parce que souvent, je me rends compte que c'est un manque d'échange, un manque de communication et d'écoute qui pousse certaines personnes à mettre des bombes, à les amener vers la violence parce qu'ils ne sont pas entendus, pas écoutés. Et ça, malgré la différence qu'il peut y avoir.
Quels sont les écueils ou les pièges de la CNV ?
Les pièges de la CNV, c'est comment est-ce que j'utilise la CNV dans mon quotidien. La première chose qui me vient, c'est peut-être de commencer à parler uniquement de soi-même. Parce que dans la CNV, on apprend, j'ai des besoins. Ok, donc quand j'ai des besoins, j'ai maintenant ce pouvoir de faire des demandes aux autres. Et je me rends compte que parfois les stagiaires, ils rentrent au travail, dans la famille, et les autres commencent à dire, mais qu'est-ce que tu es égoïste, tu fais plein de demandes. Donc c'est important de ne pas oublier que oui, j'ai des besoins, mais l'autre personne aussi. Et pour amener cet esprit de collaboration, c'est vraiment, ok, mes besoins, mais toi, qu'est-ce qui est bon pour toi aussi? Qu'est-ce que tu veux toi? Et pas uniquement parler de moi. Donc que ce soit vraiment un équilibre. Un autre écueil, peut-être, c'est d'utiliser un langage un petit peu scolaire, un petit peu protocolaire, en disant « est-ce que tu as besoin de ?»« J'ai besoin de ?» et toujours utiliser des phrases un petit peu inartificielles, un peu qui font pas très naturelles. Donc c'est cette idée aussi de comment intégrer la CNV, le fond de la CNV, les sentiments, les besoins, mais en utilisant un langage courant qui passe dans la vie, en fonction de est-ce que je parle avec un ado, avec quelqu'un qui travaille dans une administration, avec un médecin ou quelqu'un qui est dans la rue.
On continue l'émission sur la communication non violente et on vient de faire une formation pendant 6 jours sur la CNV à Montpellier. Et là, nous sommes avec les différentes participantes. Je vais vous demander de vous présenter chacune.
Delphine Lucarotti, sophrologue et formatrice en gestion des conflits.
Je suis Laurie Kotkoviak et puis... Je continue mon chemin vers une meilleure connaissance de moi-même et pour arriver à mieux comprendre l'autre également.
Bonjour, moi c'est Alice. Je suis là parce que je suis en recherche moi aussi d'une meilleure compréhension des mécanismes dans la communication et comment réussir à communiquer de manière fluide en respectant ses besoins et en écoutant aussi la personne en face.
Qu'est-ce qui vous a amené à la communication non violente? Qu'est-ce que vous cherchez à régler comme problématique dans la vie? Qu'est-ce qui vous intéresse et comment vous l'avez connu aussi, la CNV?
Alors moi, la CNV, c'est un outil de communication qui me semble incontournable dans l'accompagnement. Et notamment dans la transmission pour gérer des situations difficiles relationnelles, donc dans le milieu professionnel. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette formation et je pense qu'elle est un outil important dans la connaissance, dans la relation à l'autre, mais aussi dans la relation à soi, notamment. Et une meilleure connaissance de ses besoins et de ses émotions.
Donc la CNV, je l'ai découvert via des accompagnements que j'ai effectués avec Myriam Perrosé, donc qui elle-même pratique la CNV depuis une dizaine d'années. Et les transformations que j'ai pu vivre en séance m'ont vraiment donné envie de... par curiosité, d'aller approfondir et de pouvoir m'approprier justement ce processus. Et du coup, c'est ce que j'ai fait et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je me suis inscrite à ce module, donc qui prend fin en plus ce jour. Je suis nostalgique déjà. parce que c'est vraiment, moi, ça a complètement révolutionné ma manière d'être, ma manière de penser. J'arrive à me connecter plus avec les parts de moi-même, en fait. Voilà, les faire plus dialoguer, en fait. Et ça me permet de vivre vraiment plus d'harmonie et plus de paix avec moi-même. Et du coup, ce qui est fou, c'est qu'en faisant ça, ça a complètement transformé les relations que j'ai avec mon mari, avec mes enfants, parce que je vis plus de paix et d'harmonie avec eux. Pourtant, ils sont pas, eux-mêmes sont pas CNV en fait du tout. Et j'ai trouvé ça fou qu'en quelques semaines, les résultats sont pour moi en tout cas ont été rapides et c'est un processus quotidien et une manière d'être à mon sens.
Alors moi j'ai connu la CNV par des amis qui m'ont parlé de chacal et de girafe et qui m'ont parlé de tous ces trucs un peu étranges qui avaient un vocabulaire aussi bien spécifique en parlant d'aspiration, d'élan, de besoin. Je me disais waouh, ça m'a l'air un peu perché et en même temps ça m'a donné un peu envie d'aller m'y frotter et je pense que le truc de base pour moi c'était plutôt de réussir à être authentique en fait dans l'expression de ce que je ressens. Et je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui pouvait aider la relation en fait. Simplement un moment aussi de pouvoir, en étant authentique, pouvoir poser une limite en disant en fait voilà, moi je ressens ça parce que mon besoin c'est ça. Et du coup être au clair sur jusqu'où tu peux aller dans une relation ou aussi il faut pour toi mettre une limite et ne pas laisser l'autre non plus prendre tout l'ascendant dans une relation. J'ai l'impression qu'il y avait un peu cette question et du coup j'ai l'impression une des choses que je retiens de la formation c'est effectivement de reprendre du pouvoir d'action dans un dialogue, dans une manière d'être avec les autres en étant plus à l'écoute de ses besoins.
Donc cette formation, ça veut dire qu'elle vous aide autant dans le milieu professionnel que dans le milieu personnel. Voilà, qu'est-ce que vous avez appris finalement pendant voilà, cette formation de communication non violente par rapport finalement à notre langage courant, à ce qui est habituel en fait de faire. Finalement, qu'est-ce qu'elle apporte de plus Alice l'a dit un petit peu sur l'expression authentique et puis l'empathie, qu'est-ce que ça apporte de plus pour améliorer les relations et quelles étaient aussi, par exemple, les difficultés que vous avez pu rencontrer et vous vous dites peut-être avec la CNV, ça va pouvoir s'améliorer dans la relation.
Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est justement l'intention dans la relation, l'intention de renouer la relation avec l'autre. Et c'est contre nature au final, donc ça m'a beaucoup appris. C'est un langage en fait, hein, au final, un langage qu'on n'a pas forcément appris à parler à l'école. Donc il faut se le réapproprier et c'est pas évident. Mais voilà, j'ai beaucoup appris sur effectivement ce langage, ce retour à l'autre, hein, essayer de renouer le contact et bon voilà, ça prend du temps, mais je pense que c'est pour une meilleure communication entre nous tous, et y compris dans un cercle familial, que ce soit voilà au niveau professionnel. Je pense qu'il y a de réels apports pour à essayer de commencer à apprendre ce langage.
Qu'est-ce que cette formation m'a appris énormément de choses sur moi-même. Effectivement, qu'en fait, on est responsable de nos émotions. On peut reprendre le pouvoir dessus, ne plus donner le pouvoir à l'autre. Symboliquement, ça a été représenté par la télécommande durant la formation. Donc, récupérer la télécommande pour être, pour reprendre notre pouvoir. Et oui, effectivement, je me rends compte que, avant, dans mon mode de communication habituel, j'étais vraiment beaucoup dans l'écoute en fait et les attentes de l'autre, et j'étais pas forcément connectée à mes attentes. Et donc oui, maintenant je me questionne plus. Ah ok, donc quand l'autre me dit ça, qu'est-ce que ça me fait vivre? Et je vois également ce qui est bon pour moi, donc j'accueille pleinement ce que je ressens, que ce soit agréable, que ce soit désagréable. Et voilà, et ce temps-là, en fait, d'auto-empathie m'a énormément apporté d'amour envers moi-même. Et du coup, après, ça me rend beaucoup plus disponible à l'autre, parce que j'ai une présence qui est vraiment plus... plus authentique en fait, plus sincère, et je suis pleinement là pour lui en fait, pour écouter ce qu'il cherche à me dire derrière ses stratégies. Voilà, qu'est-ce que en fait, de quoi il a besoin, qu'est-ce qui manque, de quoi il me parle. Et oui, en fait, c'est des oreilles de girafe, pour reprendre l'analogie que disait Alice sur la girafe et le chacal. Et c'est les oreilles de girafe en fait qu'on va venir écouter quand l'autre nous parle dans un langage de chacal, donc très très jugeant. Voilà, c'est aller au-delà de ce qu'il dit, de ce que l'on pourrait prendre mal pour nous, et de voir en fait ce qu'il y a derrière en fait pour lui, qu'est-ce qu'il vit. Et qu'est-ce que nous, ça nous fait vivre quand il nous dit ça, quoi. C'est faire un aller-retour entre soi et entre l'autre pour être toujours au plus juste pour nous et pour l'autre. Enfin, voilà, pour moi, c'est un équilibre en fait sur lequel je progresse, et que cette formation m'a vraiment aidé à faire ce va-et-vient avec beaucoup plus de facilité, de flexibilité, bien que le chemin est encore long, à mon sens.
Thank you.
Toi, Alice, le chemin est encore long. Est-ce que tu penses que la CNV, toi qui as fait de l'humanitaire, est-ce que ça peut apporter un petit peu plus de paix dans le monde, dans les relations, de manière générale? Qu'est-ce que tu penses peut-être de la philosophie de la communication non violente?
Effectivement, dans la formation, Martin, il a parlé du fait que la violence provoque la violence. Et en fait, dans notre manière de, même si on le juge pas forcément comme de la violence de prime abord, en fait, exprimer, c'est tout ce qu'on a vu sur les freins à la communication, mais exprimer des jugements, exprimer des exigences, interpréter les choses que les gens nous disent, ça, clairement, ça facilite pas du tout la communication, la compréhension mutuelle, et donc, je pense, par répercussion, clairement, ça ne facilite pas une harmonie dans la compréhension entre nous et à un niveau plus macro. C'est ce qu'il disait, en fait, c'est que quand on commence à travailler là-dessus, pour soi, ça a aussi une répercussion sur les structures, parce que par espèce d'effet de capillarité, en fait, lui, c'est ce qu'il exprime, en tout cas, il y a une forme d'exemplarité qui fait que ça peut... D'autres personnes en face, te voyant exprimer tes besoins, tes émotions, peuvent aussi se mettre peut-être à le faire. Et je pense qu'effectivement, en tout cas, c'est plus au service de la paix qu'une communication qu'on a habituellement, qui est plutôt accusatrice, qui est centrée sur nous et qui cherche pas à aller à la rencontre de l'autre, quoi.
Les Nouveaux Sauvages, une émission présentée par Marie Laloume.